Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Double Voix, le podcast qui met à l'honneur ces Lyonnais et Lyonnaises qui changent le monde, qui changent notre monde. Je suis Julien Verchère en duo avec Stéphanie Borg pour cette émission coproduite par Rhône Express et Tout Lyon, votre média lyonnais. Elle est jeune, elle est curieuse, elle est innovante, elle est lyonnaise, autant de bonnes raisons d'être avec nous aujourd'hui. Médecin en chef des batteries qui font avancer nos vélos ou nos trottinettes électriques, son business la place aujourd'hui au cœur de l'actu et même des grands enjeux de société. Diplômée de l'UCLI, de l'EM Lyon, fondatrice de DoctiBike, elle trace sa route dans le monde passionnant, foisonnant et parfois même insupportable de ce que l'on appelle les nouvelles mobilités. Nous sommes à la Part-Dieu, sur le quai du Rhône Express, en compagnie de notre invitée, Anne-Sophie Kestiker, qui vient de stationner la trottinette électrique dont elle ne se sépare jamais sur un emplacement dédié. Un voyage d'un peu moins de 30 minutes, Double Voix, épisode 4, c'est parti.
Bienvenue à bord de Rhône Express, à destination de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Welcome aboard Rhône Express in direction of Lyon-Saint-Exupéry Airport.
Anne-Sophie Kestiker, bonjour.
Bonjour.
Les portes du Rhône Express se ferment, occasion d'un bout de chemin à faire ensemble. Vous qui êtes une spécialiste de la mobilité, il ressemble à quoi votre itinéraire depuis l'enfance? Plutôt du genre route toute droite ou parsemée de virages inattendus?
Alors plutôt des virages inattendus que j'ai essayé de négocier au mieux à chaque fois. Donc moi je suis issue d'une famille avec un papa entrepreneur et une maman professeur. Donc deux métiers complètement opposés, à la fois dans le rythme, dans les engagements, etc. Mais qui m'a permis d'avoir un équilibre très intéressant et d'avoir une vision, qui m'a tout de suite donné envie d'entreprendre. Parce que dès le plus jeune âge, j'ai suivi mon père dans ses nombreux voyages à l'international, en Chine, en Allemagne, etc. En me disant, c'est chouette d'être entrepreneur, on rencontre plein de monde, on fait des salons, on peut trouver des nouvelles idées et puis un petit peu changer le monde à sa manière. Donc le week-end, je tiens le magasin de vélo de mon père. L'été, je pars en Chine avec lui visiter des usines de fabrication de vélos. Et c'est comme ça que je tombe dans le chaudron à la fois de la mobilité et de l'entrepreneuriat. En sortant du coup de mes années lycée, je me dis « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» À ce moment-là, je suis vraiment passionnée de musique. J'ai fait le conservatoire, j'ai envie de continuer dans la musique, le chant, le piano, la flûte à bec, etc. Et puis je me dis, c'est chouette, mais c'est ma passion. Et finalement, est-ce que faire de sa passion son métier, ça va pas la ternir un petit peu petit à petit? Donc je reviens à l'itinéraire plutôt familial en me disant, finalement, l'entrepreneuriat, c'est ce qui me porte et ce qui me donne envie de changer le monde à ma manière, de créer des emplois et d'avoir un impact positif sur mon environnement, tout en gardant la musique le soir et le week-end. Je rentre à l'Université catholique de Lyon, plus particulièrement à l'ESDES, qui est donc une école de commerce avec une vraie dimension sociale et environnementale, et c'est ce qui m'a plu dans cette école. Je pars en Asie pendant ma deuxième année, à Taïwan plus précisément, où là, je fais un stage dans le domaine de la mobilité, donc le vélo électrique. Et à ce moment-là, je me dis, OK, c'est super intéressant. J'ai pu apprendre toutes les matières nécessaires à créer sa boîte, le commerce, la finance, le marketing, le droit. Je connais le secteur de la mobilité et je vois un enjeu qui est demain, tout va devenir électrique. On ne peut pas continuer avec de la mobilité thermique dans les prochaines années. Et le sujet principal, ça va être la batterie. Tout comme dans le business des imprimantes, la cartouche d'imprimante est le cœur du réacteur. Dans nos trottinettes, dans nos vélos et même dans nos voitures, le sujet principal, le cœur, c'est la batterie. Je vais voir mon père et je lui dis si on ouvrait des batteries de trottinettes électriques dans le garage de mes parents qui habitent à Échala, à côté de Givors, donc autour de Lyon. Et on commence à se dire on va développer un savoir-faire autour de la batterie. Et c'est à ce moment-là, en 2014, que je lance DoctiBike. Voilà, pour les différents virages qui ont composé le parcours.
Et justement, expliquez-nous un petit peu ce que c'est ce Doctibike. Si je traduis, c'est le docteur de la batterie. Alors pourquoi ce nom? Et puis comment vous vous positionnez dans cet écosystème global de la mobilité?
Alors, pourquoi ce nom? Parce que l'objectif, c'était de se dire, en créant Doctibike, beaucoup de sociétés se positionnent sur la vente, la réparation ou même la location de deux roues électriques. Je dis deux roues parce que vraiment chez Doctibike, on travaille sur le vélo, mais aussi sur la trottinette, le scooter et la moto. Et l'objectif ici, c'était de se dire, bon, comment on peut faire pour réduire l'impact environnemental au maximum de notre mobilité électrique? Et pour ça, comment on peut faire pour réparer, reconditionner, diagnostiquer nos batteries et augmenter la durée de vie des produits? Donc c'est vraiment ça la raison d'être de Doctibike. On a développé un savoir-faire qui est assez particulier. En 2014, on était les premiers à réparer des batteries de mobilité électrique en France. C'était un métier qui n'était pas connu. Tout le monde se concentrait sur la vente de ces produits, mais très peu sur la réparation. Et petit à petit, on a monté une équipe d'experts qu'on a formés en interne. Et aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes situées à Villeurbanne, avec un savoir-faire très particulier sur ces batteries. On est capable, grâce à notre savoir-faire, de doubler, voire tripler la durée de vie d'un vélo ou d'une trottinette électrique. Et ça, c'est ma plus grande fierté.
Est-ce que vous avez trouvé un écho? Est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'au départ, on vous a regardé un petit peu comme un ovni? Ou finalement, les consommateurs, vous avez répondu aussi à des questionnements et des attentes?
Alors, côté consommateur, et c'est de là qu'est venue l'idée de l'entreprise, hein, c'est que un samedi matin, j'étais dans un magasin de vélos. Et une cliente arrive, vraiment true story, hein. Elle arrive avec son vélo électrique qu'elle avait acheté dans ce magasin 2 ans avant. Et elle dit à son vélociste, voilà, j'ai plus assez d'autonomie. Moi, mon parcours moyen, c'est 15 km par jour. C'est pour ça que j'ai acheté mon vélo. Et si je fais pas 15 km, en fait, ça remplit pas le contrat. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver l'autonomie du début, en fait, d'utilisation de mon vélo électrique? Et là, le magasin lui répond, écoutez, madame, soit je peux vous proposer de racheter une batterie, soit je vous propose de racheter un vélo. Regardez, il y a ce modèle, là, il est super, je vous fais une offre de reprise sur votre vélo électrique et puis je vous vends un nouveau vélo. Et là, la cliente répond, non, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles j'ai acheté un vélo électrique. La première, c'est pour faire du vélo et pour arrêter d'utiliser ma voiture en ville. Et la seconde, c'est pour réduire mon impact environnemental. Donc si je rachète un vélo électrique 1 an et demi après avoir acheté le premier, finalement, je crée du déchet et je répare pas le produit que j'ai acheté. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment une place à prendre dans cette chaîne de valeur en étant le partenaire à la fois de l'utilisateur final, mais aussi des réseaux de magasins, pour pouvoir leur permettre de proposer ce type de service et ce type de solution pour vraiment aider leurs clients à garder leurs produits plus longtemps.
Dans ce contexte, est-ce que vous rêvez d'un monde où le cyclage serait la norme?
Alors, je ne suis pas non plus une ayatollah de la mobilité électrique. J'estime que on peut faire de la trottinette électrique quand on est en cœur de ville, quand on a la chance d'habiter au cœur d'une métropole comme Lyon. On peut utiliser son vélo ou sa trottinette pour aller au travail, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier le monde rural non plus. Et à un moment donné, il faut aussi que les personnes qui habitent en banlieue ou en périphérie des villes puissent bénéficier de la mobilité. Donc je pense que le vélo, c'est le meilleur outil de mobilité en ville et que le reste des mobilités doivent permettre à un utilisateur d'avoir un parcours complet avec les transports en commun, avec le train, avec des parkings relais, etc., pour que le vélo et la trottinette électrique restent le meilleur moyen de mobilité en cœur de ville. C'est clair.
Vous n'attaquez pas aux batteries des voitures encore?
Pas encore. On regarde. C'est un sujet qu'on regarde. Maintenant, c'est des batteries qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes, avec des homologations et des certifications aussi pour nos techniciens qui sont différentes. On s'interdit rien. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la cellule qui compose la batterie, donc la pile, c'est la même dans votre cigarette électronique, dans votre trottinette, dans votre vélo et dans votre Tesla. C'est la même chose dans votre aspirateur aussi. Voilà, c'est vraiment le même dénominateur commun. Donc la chimie, on la connaît, le savoir-faire, on l'a. Maintenant, on saisira les opportunités au fur et à mesure et on adaptera nos locaux, nos homologations, etc. en fonction de ça. Pour l'instant, il y a déjà beaucoup à faire avec le deux-roues et on souhaite vraiment continuer à se développer en France, mais aussi à l'international. On a ouvert récemment un bureau à Francfort pour attaquer le marché allemand. Et puis là, on regarde l'Espagne et le Portugal.
On peut peut-être dire que aussi rappeler que vous avez cédé une petite partie d'Octibike pour justement répondre à cet enjeu international.
Exactement. D'Octibike, c'est une société qui a été en croissance très forte ces dernières années. Et l'année dernière, avec mon associé Pierre, qui est maintenant le directeur général de D'Octibike, on s'est dit comment on peut faire pour trouver des partenaires qui vont nous permettre de croître plus vite et d'atteindre nos objectifs. Donc on avait deux solutions, soit trouver un partenaire purement financier, soit trouver un partenaire qui nous permette aussi de nous ouvrir à de nouveaux marchés. Et c'est ce que j'ai souhaité faire en cédant une partie de mes parts au groupe Green Riders, qui est un groupe français qui vend des trottinettes électriques, des scooters électriques et qui forme aux nouveaux métiers de la mobilité. Donc cette opération, on l'a faite en décembre de l'année dernière, ça fait tout juste un an. Et à l'occasion de cette opération, j'ai pris la direction du groupe. L'objectif étant de créer des synergies en fait entre les différentes filiales pour vraiment créer la première plateforme de mobilité française capable à la fois de fournir de la mobilité électrique, trottinettes, vélo bientôt, scooters, motos, et de fournir surtout des services. Parce que lorsque vous achetez un vélo assistance électrique, vous avez besoin derrière qu'il soit réparé, bien maintenu, et que vous puissiez avoir en face de vous des mécaniciens qui connaissent ces métiers. Et moi, le plus gros problème que j'ai eu sur Doctibike, c'est de trouver des techniciens qui savaient réparer des batteries. Donc on les formait en interne, on trouvait plutôt des électrotechniciens, des personnes qui avaient des expériences dans le bâtiment, dans l'industrie, etc. Mais c'est vraiment un nouveau métier. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis rapprochée de Green Riders. C'était pour créer la Green Riders Academy qui permettrait demain de former tous les techniciens batterie dont je vais avoir besoin dans le cadre de l'activité de Doctibike.
Elle existe, cette académie? Vous allez la créer? Où ça?
Alors, elle existe. Elle existe donc au siège du groupe qui est situé à Saint-Denis dans le 93. Donc, au sein de Green Riders Group, on a deux gros sites, un à Saint-Denis et un à Villeurbanne. L'académie, on l'a créée il y a maintenant un an. Et là, on lance le premier CFA des métiers de la mobilité électrique en partenariat avec ADECO. Et la première promotion d'apprenants a démarré il y a 15 jours.
Contrairement à d'autres métiers, vous avez plus de facilité à convaincre de venir vous rejoindre ou ça reste quand même un métier technique et pas toujours facile à vendre, entre guillemets?
Alors, c'est un métier qui est un métier passion. La mobilité, ça touche tout le monde. C'est un peu comme la gastronomie, finalement. On a tous besoin de se déplacer d'un point A à un point B. Donc la mobilité, ça nécessite à la fois des compétences de mécanique, d'électronique, d'électricité, etc. Donc c'est un métier qui est très intéressant et qui nécessite pas forcément de bagages scolaires. On a la capacité vraiment d'apprendre ce métier à des personnes qui viennent de tout horizon. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on a une première promo là qui a démarré de 20 personnes. Et ce qu'on voit, c'est que peu importe l'horizon et le passé de ces personnes, elles apprennent ce métier avec plaisir et elles ont la satisfaction de prendre une trottinette ou un scooter qui ne fonctionne pas et au bout d'une heure de travail de voir que ce produit fonctionne et que la personne peut l'utiliser à nouveau dans le cadre de sa mobilité. Et ça, c'est une vraie fierté.
Donc on parlait de travail autour de la mobilité, mais la mobilité, elle change aussi le rapport, la façon de se déplacer. Comment vous l'observez entre la ville, la campagne? Vous parliez tout à l'heure, vous disiez qu'on n'avait pas la même mobilité, mais comment ça a infusé et quel est votre regard en fait sur cette situation de la mobilité aujourd'hui dans nos vies en fait?
Alors, mon regard, c'est qu'il est très important de faire en sorte que toutes les industries de la mobilité se parlent entre elles. Et c'est la raison pour laquelle, avec Renaud Collin, le président de la société Adbike, qui permet de transformer les vélos en vélos cargo, on s'est dit il y a 3 ans, il faut qu'on puisse créer une association des acteurs de la mobilité en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça s'appelait le cluster MAD, Mobilité Active et Durable, et c'est devenu maintenant CARA Active Mobility, au sein du coup du groupe CARA, qui représente tout type de mobilité. Notre souhait avec Renaud, ça a été de se dire, en parallèle de nos boîtes respectives, comment on peut faire pour créer une association pour que, à la fois, les filières ferroviaires, les filières mobilité active et les filières automobiles puissent parler entre elles pour trouver des solutions d'interconnectivité entre les différentes mobilités. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé cette association. On est très content parce qu'aujourd'hui, on compte 160 adhérents. Au sein de CARA, ça a permis de faire un certain nombre de ponts entre l'automobile, le vélo, la trottinette, le train. Et je pense que ce qui est très important, sur, notamment sur une région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'avoir des possibilités d'utiliser tout type de mobilité en ayant un parcours qui soit efficace. Vous n'allez pas prendre le vélo en cœur de ville si vous n'êtes pas capable de garer votre voiture quand vous arrivez aux abords de Lyon. Donc tout ça, c'est un enchaînement de décisions à la fois politiques, mais aussi industrielles. Et mon objectif et l'objectif de CARA, ça a été de ne pas opposer les mobilités. C'est pas le vélo contre la voiture ou la voiture contre le train. C'est comment on fait pour avoir un système qui soit bénéfique à la fois pour l'environnement et pour les utilisateurs, pour permettre une efficacité dans le transport. Voilà. Donc, à notre petit niveau, c'est ce qu'on a fait au départ entre entrepreneurs avec Renault. Ensuite, on a 5 autres entreprises qui nous ont rejoints. Et puis, petit à petit, on a développé ça au sein de CARA et maintenant 160 adhérents au niveau de la région.
Justement, vous parliez d'environnement. Les détracteurs aussi de la mobilité disent que les batteries, ben, finalement, ça polluerait plus que une production, enfin voilà, qu'elle a un cycle aussi de pollution propre. Comment vous réagissez par rapport à ces prises de position?
Alors, c'est clair que le mieux, c'est la marche. Voilà, il n'y a pas de secret. Quand on marche, on ne pollue pas. Donc ça, c'est clair et net. Maintenant, c'est sûr que les batteries, ça nécessite d'une part d'exploiter des gisements qui sont plus ou moins bien exploités, plus ou moins disponibles, etc. Plus ou moins exploités de manière éthique. Donc ça, c'est un point très important. Et ensuite, il faut être capable de produire ces batteries. Moi, mon combat, il est sur la gestion du déchet. C'est que quand j'ouvre une batterie chez Doctibike, quand on l'ouvre, qu'on regarde à l'intérieur et qu'on voit que 80% des cellules qui la composent sont encore bonnes, alors que la personne voulait jeter sa batterie et changer son vélo, etc. Moi, je me bats là-dessus. Je dis, OK, les batteries, c'est sûr que ça a un impact environnemental. Maintenant, comment on fait pour augmenter la durée de vie de ces batteries qui sont déjà produites, les réparer, les remettre dans le circuit de manière à réduire un petit peu à notre humble niveau la production finalement de ces batteries au démarrage. Donc on est vraiment, nous, sur un objectif d'économie circulaire, de ne pas reproduire des batteries qui ne seraient pas nécessaires à utiliser dans le circuit de la mobilité électrique aujourd'hui. Maintenant, il est vrai que la batterie a un impact environnemental et l'objectif de Doctibike et de toutes les sociétés dans l'économie circulaire du vélo, c'est de réduire cet impact. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est peut-être une réponse de Normand que je vous fais, mais l'objectif, c'est de se dire, on ne peut pas tous marcher pour aller au travail. On a besoin de voitures, on a besoin de mobilité un petit peu plus longue en termes de kilomètres. Donc comment on fait pour réduire cet impact en consommant moins, finalement?
Cette réduction de l'impact, cette économie circulaire, c'est votre façon à vous de changer de monde? Vous en avez d'autres?
Alors c'est ma façon de changer le monde, d'une certaine manière. Je dirais que c'est quand on est entrepreneur, on est un petit peu rêveur. Moi, je rêve en effet de réduire l'impact environnemental de la mobilité. C'est ce pourquoi j'ai créé cette société. Et puis mon deuxième objectif, ça a été de créer de l'emploi et de créer de l'emploi non délocalisable. Parce que les erreurs qu'on a faites dans le passé, ça a été de créer des industries. On a un savoir-faire en France qui est juste exceptionnel. Sur la mobilité, Saint-Étienne et la vallée du Gier, ça a été vraiment une vallée qui produisait énormément de vélos. On a tout laissé partir. Et pourquoi ? Parce que ces métiers-là étaient facilement délocalisables, parce qu'on a voulu produire moins cher, etc. Donc moi, d'une certaine manière, mes deux points, c'est ça, c'est réduire l'impact environnemental des produits de mobilité et d'autre part, former des personnes à ces métiers qui sont locaux, non délocalisables et qui permettent d'être fiers du travail qu'on fait, quoi.
Vous avez aussi une forme d'alignement des planètes, parce qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout l'actualité. Bon, on a dû vous prendre un petit peu pour un ovni. Aujourd'hui, quand on parle d'impact aussi, c'est la volonté politique. Est-ce que vous êtes aidé ? Est-ce qu'on vous écoute ? Est-ce qu'on vous a déjà questionné sur ces questions ? Comment vous pourriez vous engager plus encore ? Ou pas ?
Alors c'est sûr qu'il y a 8 ans, on me regardait vraiment comme un ovni, vous avez raison. J'avais 23 ans, j'étais une femme qui voulait monter une boîte dans l'industrie. Je peux vous dire que...
Cumulier un petit peu. Hein.
Je cumulais les tares. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là... Et puis en plus, la mobilité électrique, pour vous donner un chiffre qui est intéressant, en 2014, on vendait 20 000 vélos électriques en France. L'année dernière, on en a vendu 800 000. Donc à l'époque... Moi, les batteries que je répare, c'est des vélos qui ont été vendus il y a 3-4 ans. Donc en 2014, 3-4 ans avant, il y avait peut-être 2000 vélos électriques qui avaient été vendus en France. Donc c'était un tout petit marché. On se demandait un petit peu pourquoi j'avais cette idée-là. Mais on a réussi à lancer la société. Et puis on a eu des hauts, des bas, etc. On l'a développé. Et on a toujours été très soutenus par la politique. Et notamment, surtout, par la mairie de Villeurbanne. Parce qu'on a vécu un terrible incendie en 2019 qui a complètement dévasté notre entreprise, qui était située dans la pépinière de Bel Air Camp. Et tout de suite, la mairie de Villeurbanne nous a aidés. Le surlendemain de l'incendie, j'ai eu la clé de mes nouveaux locaux. Ça m'a permis de redémarrer l'activité, de mettre personne en chômage partiel, et 3 mois après, de continuer l'activité presque comme si rien ne s'était passé. Donc la mobilité, ça intéresse les pouvoirs publics. On est proche vraiment de la politique locale, hein, de la mairie, de la métropole, etc. J'aimerais vraiment m'engager plus lorsque j'aurai peut-être passé une étape dans ma vie d'entrepreneur. Parce que la politique, j'adore ça. Et je pense que c'est... en ayant un impact politique, on peut aussi changer la vie des gens et changer vraiment, en tout cas avoir un impact sur les sujets environnementaux. Donc j'ai envie de le faire plus. Pour l'instant, je peux pas le faire plus compte tenu de la bande passante qui me reste. On a essayé de le faire avec Renaud d'un point de vue plutôt associatif, et ça a été un premier pas. Ça nous a permis de travailler avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la métropole, et on a vu que tous ces sujets de mobilité, c'était vraiment au cœur des stratégies politiques, parce que ça fait partie des besoins essentiels, la mobilité. Donc forcément, c'est au cœur de toutes les questions de la mairie, la métropole. Comment on peut faire pour que les gens se déplacent mieux? Voilà, donc j'espère pouvoir faire un petit peu plus dans les prochaines années.
Alors Anne-Sophie Kestiker, nous sommes bientôt arrivés au terme de ce voyage. On aperçoit au loin les terminaux de l'aéroport Saint-Exupéry. C'est un lieu qui inspire vos envies d'ailleurs, je crois.
Exactement. Exactement, parce que je puise mon inspiration dans les voyages. Et à chaque fois que je voyage, j'ai de nouvelles idées. Je me dis, bah tiens, je pourrais faire ça dans Doctibike, on pourrait monter tel nouveau produit. Et je pense que le voyage, c'est vraiment important pour la créativité. Donc ce lieu, je l'aime beaucoup. Quand j'y suis, je sais que je pars pour de nouvelles aventures et que je vais avoir plein de nouvelles idées. Quand je vais rentrer, Mon entourage va me dire « Mais qu'est-ce que t'as pensé encore, Anne-Sophie ?» et voilà. Et c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Avant le Covid, j'allais 6 à 7 fois par an en Chine. Donc c'est un endroit où je passais beaucoup de temps. Green Rider, c'est à Saint-Denis et Doctibike à Lyon. Donc je prends beaucoup le train aussi à la gare de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et c'est pour moi un lieu dans lequel j'ai le temps de réfléchir. Voilà.
Et quel est pour vous, vous qui alliez ou qui vous allez peut-être retourner un petit peu plus en Asie, quel est le regard que vous portez sur la mobilité internationale ? Est-ce que la France, elle est plutôt bien placée ? Ou est-ce qu'il y a d'autres pays dont on pourrait s'inspirer ?
Alors, la France est bien placée et on parle beaucoup des coronapistes, donc de toutes les pistes cyclables qui ont été mises en place pendant le Covid. Je pense que Lyon, c'est un exemple sur ce sujet-là. On voit qu'on a de plus en plus de pistes cyclables et surtout des pistes cyclables qui sont sécurisées. Parce que ce qui est compliqué en vélo, c'est quand vous avez une piste cyclable qui est entre deux pistes de voiture, vous ne vous sentez pas très bien. Et ça, c'est un gros frein à l'utilisation du vélo électrique. Un pays qui est pour moi un modèle sur les infrastructures cyclables, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, j'y vais beaucoup parce qu'on a beaucoup de partenaires en Allemagne. Et systématiquement, les pistes cyclables sont séparées avec un terre-plein, ce qui permet aux familles de faire du vélo sans problème, tout en étant vraiment en plein cœur de ville. Donc je pense que s'il y avait vraiment un pays dont on devait s'inspirer, ce serait l'Allemagne.
Vous voyagez beaucoup, mais est-ce qu'il y a encore un voyage dont vous rêvez ?
Bien sûr, et heureusement, je rêve d'aller aux États-Unis. J'y suis encore jamais allée. J'ai eu la chance de participer au Startup Fest, qui est un salon dédié aux startups au Canada. Et j'ai déjà beaucoup aimé la mentalité nord-américaine, et notamment leur mentalité entrepreneuriale, parce que le goût du risque, on le retrouve beaucoup en Amérique du Nord. Donc j'espère pouvoir aller aux US et pourquoi pas ouvrir Doctibike USA.
Peut-être une présence au CES de Las Vegas avec votre innovation.
Avec plaisir.
Est-ce qu'un jour vous rêvez de voyager dans un avion qui aurait des batteries recyclées ?
Alors là, il faudrait que j'embauche beaucoup, parce que la batterie serait énorme et ce serait une grande fierté, parce que ça veut dire qu'on embaucherait au moins 20 techniciens supplémentaires pour la fabriquer, donc j'en rêve, oui.
Nous sommes arrivés au terme de ce voyage. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci à vous.
Terminus, aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Double Voix, c'est fini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et en parler autour de vous. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.